Bonjour à tous. Et effectivement, hier, on a animé un temps de formation à l'évangélisation, où il y avait une quinzaine de personnes qui étaient présentes ici, qui venaient d'Aix, Avignon, Cavaillon, tout ça, qui ont répondu à l'appel pour être formés. Et on a fait une sortie dans le parc hier après-midi, où on a vécu des belles choses, on en parlera tout à l'heure. Et aujourd'hui, on nous a demandé de faire un message sur la suite de hier, donc dans l'évangélisation. Et j'ai appelé ce message « Lève-toi, il t'appelle ». Et en fait, je voulais repartir au début dans la parole. Bon, je ne sais pas, ça marche comme ça, je crois. Ou comme ça. Voilà. En fait, dans la Bible, en fait, dans les évangiles, il y a Lévi, Matthieu, qui est appelé par Jésus. Et on va relire, merci Joanne, on va relire ce passage ensemble dans Luc 5, versets 27 à 28. Après cela, Jésus sortit et il vit un collecteur d'impôts du nom de Lévi, assis au bureau des taxes. Il lui dit « Suis-moi ». Et laissant tout, il se leva et le suivit. Donc là, on voit vraiment, en fait, la scène, c'est Jésus vient de faire un miracle. Et il se balade dans une rue et il passe devant une petite guérite en bois. Et puis, il y a Lévi qui est juif, qui travaille pour les Romains, qui collecte des impôts. Et Jésus passe, et il le regarde, il lui dit « Suis-moi ». Et il abandonne son métier, il abandonne son confort de vie, et il part, il suit Jésus. Et c'est vrai que c'est un changement radical, parce que je pense que quelque part, quand on se regarde à nous-mêmes, on a peut-être du mal à lâcher les choses, on a du mal à laisser poursuivre. Et là, en l'occurrence, Matthieu, il laisse son travail, le confort, sa situation, la protection que lui donnaient les Romains. Et pour moi, à ce moment-là, Matthieu, il répond à un double appel. Parce qu'en fait, c'est Jésus directement qui l'appelle. Donc c'est le Messie annoncé qui passe devant lui, qui lui dit « Suis-moi ». Et donc il répond, pour moi, à un appel du salut. En fait, c'est le Messie lui-même qui est devant toi et qui t'appelle. Et il dit « Oui, oui Jésus », il dit. C'est ça, en fait, quelque part, sa réponse de cœur, son attitude, il dit « Oui à Jésus ». Mais au-delà de ça, il répond à un double appel parce qu'en fait, il se met en marche. En fait, il sort de sa situation, il quitte sa vie pour marcher avec le Christ, sans savoir ce qu'il allait faire, en fait. Je pense qu'à l'époque, même s'il avait une connaissance de la parole et qu'il connaissait un petit peu les écrits sur qui est ce Messie, je ne pense pas qu'il s'attendait à ce qu'il allait vivre par la suite. Et c'est pour ça en fait, qu'on prend la parole ce matin avec Neil, parce qu'en fait, on voulait vous parler de comment on a été appelé et comment on vit notre appel. Voilà. Et là, j'invite mon ami Neil à prendre la suite.
Merci beaucoup. Donc moi, j'aimerais partager, bonjour à tous, j'aimerais partager un peu de mon témoignage. Merci. Quelques encouragements, j'espère, pour nous tous. Et comment ça marche? Voilà. Et aussi quelques versets bibliques. J'espère que vous me comprenez bien. Je suis britannique, je viens de l'île de Jersey. J'ai grandi. Désolé, j'ai des notes et je vais lire assez proche mes notes. J'ai grandi chrétien presque toute ma vie. J'étais convaincu que Dieu m'avait appelé à faire quelque chose d'important. Et depuis mon enfance, j'ai toujours eu à cœur les missions et l'évangélisation. Probablement parce qu'on a fait pas mal d'évangélisation avec mon église et des voyages missionnaires en Europe et en Afrique. J'ai même partagé mon témoignage avant même de devenir chrétienne à l'âge de 8 ans. Avec Jeunesse en Mission, j'ai fait mon école de formation de disciples en 2002 en Orlando, en Floride, aux États-Unis. Puis une école d'évangélisation et de mission en 2003. À partir de ce moment-là, j'ai été convaincu que mon appel pour l'Europe, en particulier la France, pour faire l'évangélisation et la mission. J'ai expérimenté des moments puissants et profonds avec le Saint-Esprit, et même des miracles. J'aimerais raconter un témoignage. J'étais à Jersey, à mon île, et on est sorti avec une groupe de mon église pour faire le bowling. Et là-bas, j'ai rencontré un ami de mon adolescence et il avait des problèmes avec son dos, des douleurs, des soucis. Et donc, en parlant de lui, j'ai lui demandé si je peux prier pour lui. J'ai expliqué que le Seigneur peut lui guérir. Et il était super ouvert. Donc, j'ai demandé aussi les enfants qui étaient avec nous de venir, de prier pour lui. J'ai expliqué, on doit mettre les mains, prier, commander la douleur de partir. Et voilà, on a prié pour lui et rien d'évident s'est passé cette soir-là. Mais quelques semaines après, j'étais dans la ville, j'ai entendu mon nom et c'était lui à l'autre côté de la route et il m'a parlé, il criait fort. Il est venu vers moi et il était très excité, il m'a dit... J'ai plus de douleur. Je suis complètement guéri. Et c'était, pour moi, c'était incroyable. C'était super. Voilà. Mon travail professionnel a toujours été parallèle à mon ministère, qui est chauffeur, en fait. Et c'est intéressant de voir comment le Seigneur m'a guidé dans cette direction. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais normalement, mon ministère m'amène à travailler avec les sans-abri, les nécessiteux, les prisonniers, etc. En 2021, j'ai quitté mon île pour venir en France afin de réaliser un rêve que j'avais depuis longtemps. Et je me suis retrouvé à nouveau avec Jeunesse en Mission Paris Connect. J'ai fait plein d'activités, mais chaque année, Paris, je t'aime était toujours une de mes préférées. En fait, j'ai quelques photos ici. Le premier, c'est 2022. Le deuxième, 2023, là-bas, avec Marc. On a le premier monsieur, il était musulman. Il a reçu un Bible en arabe, en fait. C'est un Nouveau Testament. Et il est devenu chrétien. Il a donné sa vie à Jésus. Je reste en contact un peu aussi avec lui. Le deuxième, je pense qu'il était toujours chrétien, il était déjà chrétien, mais il était musulman. Et le troisième, c'est là. Donc ça, c'était 2024 et on a partagé avec un autre monsieur là-bas. Voilà. Paris, je t'aime. Maintenant, c'est Activate Paris, je pense. Voilà, je continue. Après 3 ans, j'ai essayé de faire la transition vers un travail professionnel à Paris, mais sans succès. Merci le Premier ministre d'Angleterre pour le Brexit. Pour moi, la France était toujours mon objectif, alors je suis resté en France pendant près de 4 ans avant de partir en mission à l'étranger avec la base de Jeunesse en Mission Provence. Ici à Saint-Pourtois-Château. Et donc, je fais partie de cette base maintenant. Cette mission s'est faite en Chili et en Uruguay. Aujourd'hui, je suis en train de préparer pour notre prochaine écho de formation de disciples en septembre. Et notre priorité missionnaire, ce que Dieu a mis sur mon cœur, c'est l'Afrique du Nord. Notre verset biblique pour notre école est Hébreux 12, 1 à 2, c'est là, pardon. Donc, c'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et de péché qui nous ceint si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. C'est un peu l'histoire de ma vie. Toujours les yeux fixés sur le Seigneur, jamais pleinement satisfait des choses de ce monde. C'est mon fardeau un peu. Alors, on ne comprend pas forcément tout ce qui se passe dans nos vies. Mais je suis convaincu que Dieu est au contrôle si on dépend sur lui et fait confiance à lui. Et parfois, en regardant en arrière, on peut voir comment le Seigneur était à l'œuvre. Mais ce n'est pas toujours facile. Pour moi, j'ai vu l'incroyable guérison que Dieu a fait dans ma vie personnelle au fil des années et qui se passe encore aujourd'hui. Dans mes pensées et dans mon cœur, est surtout la révélation de Dieu comme un Père véritablement bon qui m'aime et qui vous aime. C'est à travers ce verset biblique, Jean 10:10, où Jésus dit que le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Mais il dit, « Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. » C'était un peu ma verset clé pendant des années. Et voilà en fait mon histoire, la liberté en Christ, et le désir de le révéler aux autres. Notre devise à Jeunesse en Mission est de connaître Dieu et de le faire connaître. Alors, je vous invite à me rejoindre dans cette mission. Merci.
Merci Neil, mon ami. Et moi, je vais vous parler forcément de moi, du coup. Donc moi je ne suis pas issu d'une famille de chrétiens, je n'ai pas grandi dans un contexte d'église, dans un contexte comme ça peut être ici avec l'école du dimanche ou des choses comme ça. Ça n'a pas empêché que j'ai rencontré Jésus à l'hôpital en 2004. Là je ne vais pas aller plus loin sur ce témoignage là. Et ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à témoigner à l'époque et il n'y a personne qui me parlait de Jésus en fait. Et j'ai attendu 12 ans, pendant 12 ans je parlais de ce que j'avais rencontré, de ce que j'ai vécu à l'hôpital, et j'ai attendu 12 ans pour un jour parler à quelqu'un qui m'a donné un évangile de Jean et qui a compris que j'avais rencontré Jésus et qui a fait le lien en fait avec la parole. Et c'est de là que j'ai compris moi que j'avais rencontré Jésus. Et j'ai fait un camp qui a boosté ma foi, c'était en juillet 2019, on est allé dans le Mercantour. On a fait du bivouac pendant une semaine avec la toile de tente, la nourriture, les habits, tout ça. Enfin, on a fait un peu une opération commando avec des temps spirituels. Et je me souviens, toute cette semaine, on a passé du temps au-delà de 2000 mètres d'altitude. Et vers la fin de ce séjour-là, il y avait un pasteur et je lui raconte mon témoignage, comment j'ai rencontré Jésus. Je lui dis, mais pourquoi moi, j'ai rencontré Jésus à l'hôpital et pourquoi la plupart des chrétiens l'ont rencontré plutôt de manière plus douce. Et puis, c'était un peu le sujet de notre discussion. Et il me donne cette parole. Il me parle de Luc 5, verset 10. Et il me dit, moi, je pense que tu seras un pêcheur d'hommes. Tu as un cœur pour aller chercher les perdus en haute mer. Alors, il me parle de la haute mer, on est à plus de 2000 mètres d'altitude, on est très loin de la mer. Je me dis, là, le paysage, il n'est pas du tout en adéquation. Mais quelque part, au fond de moi, ça me parle, ça fait écho. Et ça soulève plein de questions. Pourquoi, comment, le fait d'entendre quelque chose qui te parle, ça soulève beaucoup d'interrogations. Et un an après, en 2020, je fais un camp d'évangélisation avec Jeunesse en Mission à Saint-Paul. Et j'entends ça, je me dis, ouais, je suis convaincu que c'est pour moi, je suis convaincu que je dois y aller. Et donc je vais à ce camp, et où on commence à témoigner dans la rue, prier pour les gens, parler de Jésus, parler de l'évangile, enfin tout ce qu'on peut faire dans l'évangélisation. Et là, il y a un des responsables nationaux de Jeunesse en Mission qui me donne cette parole en disant, toi, tu as un appel missionnaire, un appel à avoir un ministère d'évangéliste. Et pareil, ça, c'est quelque chose qui me parle, mais quand on reçoit ce genre de parole, en fait, on ne sait pas ben, comment on fait quoi, c'est quoi un ministère, qu'est-ce que c'est ce mot, ça soulève tout un tas de questions. Et ces paroles, en fait, elles ont été confirmées en 2020 et en 2024 dans d'autres contextes. Et ça fait le lien aussi avec mon témoignage et ce que dit la parole dans Luc 10 au verset 2. Il leur dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Pourquoi ? Parce que moi, j'ai attendu 12 ans de rencontrer un chrétien et qui a su me parler de Jésus. Et je me dis, mais en fait, ça a beaucoup de sens. En fait, ce témoignage, il est fait pour être entendu au travers de certaines personnes. Il y a vraiment, oui, il y a un appel, il y a un besoin dans ce pays. Il n'y a pas assez de gens qui parlent de Jésus, Jésus qui sauve, Jésus qui est la source de vie. On ne l'entend pas assez. Et je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui vivent des choses spirituelles, qui rencontrent Jésus. Et puis, ça passe à côté du monde de l'Église. Et je me dis, mais ça doit être... la parole, elle dit vrai. Il n'y a pas assez d'ouvriers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de gens qui sont actifs, pour moi en tout cas, en dehors du dimanche, la semaine, au travail, avec les voisins, enfin, toutes les sphères de nos cercles relationnels. Et je me dis, il y a plein de gens qui doivent vivre des choses avec le Seigneur, mais qui ne savent même pas, en fait, avec qui ils vivent ça, et ce qu'ils ont vécu, ça n'a pas donné une explication. Et du coup, pour moi, ça a beaucoup de sens d'entendre ces paroles. Voilà. Et du coup, pour moi, en fait, c'est, quelque part, c'est devenu une vocation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le fait d'entendre ces paroles, ça m'a saisi intérieurement. Oui, ça m'a saisi comme quelque chose que tu ne peux pas faire, parce que c'est intérieurement, ça te saisit comme ça, et ça te donne un élan, en fait. Et tu as envie d'y aller, t'es tellement convaincu que tu dois aller semer, tu dois aller évangéliser, tu dois répondre à cet appel, que tu y vas, en fait. Ça t'a tellement saisi que tu te mets en mode... je marche comme Matthieu dans sa cabane en bois. Il a entendu l'appel de Jésus et il est sorti, il y est allé. C'est l'appel de Dieu qui t'empoigne. Ça t'empoigne, mais tellement intérieurement, tellement au fond de toi que tu ne peux pas faire en fait autrement que de ne pas faire les choses. Cette chose que nous ne pouvons pas ne pas faire parce qu'il en va de notre élan, parce que nous avons entendu l'appel qui vient de Jésus-Christ. En fait, c'est comme ça que je vis ces choses. Et ce que j'ai compris aussi depuis 2020, c'est qu'en fait, on pose des questions aussi, mais est-ce que je suis capable, est-ce que je sais faire, comment on fait, enfin, les questions que beaucoup de gens nous posent. Mais en fait, j'ai compris que Dieu ne nous appelle pas parce que nous sommes capables, mais en fait, il nous rend capables parce qu'il nous appelle. En fait, du moment où il a appelé, il m'avait donné un témoignage déjà. Et déjà, ce témoignage, c'était une capacité d'eux, en fait. Il suffisait tout simplement de se mettre en mouvement, d'ouvrir la bouche et de témoigner de ce que Jésus a fait dans ma vie. Et en fait, à partir du moment où il t'appelle, tu es déjà capable de faire des choses, en fait. Et depuis 2020, alors comme disait Fabrice, j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait beaucoup de choses dans la région, ici, sur Montélimar, Saint-Paul, Avignon. Avec Neil, on a fait beaucoup de choses ici, sur Avignon. On est allé à Lyon faire la distribution des Bibles pendant plusieurs années. On a fait la fameuse évangélisation Paris, je t'aime aussi en 2023, 2024, quand il y avait les Jeux Olympiques. On a plein de témoignages aussi. Avec le réseau Nouvelle Connexion, qui est notre famille d'église, qui organise une semaine d'évangélisation chaque année, je crois que c'est depuis 3 ans, qui fait une formation au ministère d'évangéliste depuis 2 ans. Et aussi avec Christ pour toutes les nations, avec le ministère de Reynard Branqueux, pour ceux qui connaissent Christ for All Nations. Et ce que j'ai appris surtout avec Christ pour toutes les nations, il y avait un évangéliste un jour qui a apporté un enseignement, et pareil, il a reçu un appel assez similaire au mien, et il disait que tant qu'il n'avait pas accepté son appel dans sa vie, ça n'avait pas pleinement pris sens. Et moi, je crois vraiment que c'est une parole de vérité. On doit accepter son appel. Sinon, il ne prend pas sens. Tu ne lui dis pas oui à cet appel. Il est là, il t'empoigne quelque part, ça te ronge, mais c'est comme si tu avais fait un pas dans ton appel et puis l'autre pas, tu traînes du pied pour ne pas y aller. Et le fait d'accepter son appel, de dire oui, je considère que c'est l'appel de Dieu dans ma vie, ben, tu y vas des deux pieds, et là, tu vis des trucs de dingue. Comme on a chanté tout à l'heure, ce matin, on a chanté Dieu de l'impossible. Marc 9, 23, je crois que c'est... Je le prends tout à l'heure. Non, c'est peut-être pas là. Non, c'est juste, ça va arriver. Marc 9, 23 qui dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Après, c'est qu'une question de foi, en fait. Si tu crois vraiment que c'est Jésus qui t'appelle à faire ce genre de choses et que tu y vas vraiment avec les deux pieds, ben, on va vivre le possible de Dieu. Et là, je vais vous parler de deux missions. La première, c'est on est allé en Guadeloupe l'année dernière avec une équipe de francophones. On est allé prêcher l'évangile, prêcher la guérison, prêcher le baptême du Saint-Esprit sur les plages, dans la ville de Pointe-à-Pitre, sur les places principales. Et là, je vous ai mis une photo. On a prié pour les deux personnes qui sont à la retraite, ça c'est à Pointe-à-Pitre. Et la personne de gauche, en fait, avait des problèmes d'audition et était appareillée. Donc elle avait un appareil sur chaque oreille. Là, c'est moi qui ai pris la photo. On a prié pour lui. Il a enlevé ses appareils auditifs, il nous parlait. On avait une discussion tout à fait normale, pas besoin de répéter quoi que ce soit. Et il est parti, les deux prothèses auditives dans la main. Voilà. Et la parole, elle dit, Matthieu 7, 32 à 35, Jésus guérit les sourds. Mais c'est encore vrai aujourd'hui. J'en suis témoin et on a pris la photo. Là, c'est cette année à Marseille. Au mois de mars, je crois, on a discuté avec... on était en mode évangélisation pas très loin du Vieux-Port, et on a rencontré cette personne musulmane qui a fait un AVC il y a 5 ans, et quelque part qui traînait des séquelles, du mal à parler, le bras droit complètement figé, il marchait avec une canne, donc il avait le côté droit, en fait, qui avait été complètement touché. Et ça, c'est une vidéo de témoignage. Est-ce que tu peux lancer la vidéo, s'il te plaît ?
Il a vécu un AVC il y a 5 ans. Il avait du mal à parler, il a du mal à marcher, il a une canne, il a le bras paralysé. Et là, maintenant, Ibrahim, tu as beaucoup plus de facilité à parler, c'est ça ?
Oui.
Et au niveau des jambes, tu arrives plus facilement à marcher sans la canne.
Non, c'est ça.
Ah, vas-y, marche un peu, marche à la canne. C'est mieux que ce matin ? Waouh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
Voilà. Donc après, bon, on voit pas, on l'a pas filmé non plus trop longtemps, mais on le voit partir dans la rue sans la canne. Il ne se sert plus de sa canne. Voilà. Jésus aime les musulmans et il guérit aussi les musulmans. Et dans la parole, je crois que c'est dans Actes, c'est ça, Pierre et un autre disciple, en fait, ils avaient prié pour un boiteux. Et le boiteux s'était mis à remarcher. Et aujourd'hui encore, ben, Jésus guérit les boiteux. Hier, la formation et on a fait une sortie dans le parc. Et on a vécu quelque chose de dingue, on a vécu une guérison. Et est-ce que Samuel, tu peux venir témoigner en 2 minutes de ce qui s'est passé hier ? Bravo Samuel, merci.
C'est pas facile. Du coup, j'avais vraiment à cœur de vous partager une rencontre qu'on a fait avec un homme qui avait 30 ans et qui était à la rue depuis un mois. Donc il s'appelait Jacques, mais il voulait qu'on l'appelle Ismaël, parce qu'il avait été blessé par son prénom. Il était vraiment dans un combat spirituel, dans une guerre. Il se disait réceptacle entre le bien et le mal. Il disait chrétien et musulman. En fait, il était vraiment comme deux personnes, comme il y avait Jacques et il y avait Ismaël. Et du coup, je rends vraiment gloire à Jésus et au Saint-Esprit, parce qu'il nous a protégés, parce qu'il était vraiment habité par des démons. Même lui, il le disait comme quoi Satan était à l'intérieur de lui. Donc merci à Neil aussi d'être avec moi, parce que tout seul c'était compliqué, parce que c'était la première fois que je sortais, la première fois aussi que j'évangélisais. Et Dieu nous a donné les armes pour aller évangéliser. Et j'ai fait une formation le matin, incroyable, merci Marc. Et l'après-midi, je me sentais prêt. prêt à combattre, prêt à être un guerrier, prêt à partager l'évangile, l'amour de Dieu, mon témoignage. Et du coup, on a demandé s'il voulait qu'on prie pour lui. Et il s'est plaint d'une grosse blessure qu'il avait à l'épaule. Il l'avait déboîté quand il levait. Il ne pouvait pas lever au-dessus de ça. Donc c'était très particulier. Enfin, du coup, je me suis dit, bon, bah, est-ce que tu veux qu'on prie pour toi ? On a prié pour lui. C'était compliqué aussi parce que je n'avais jamais prié pour une autre personne que je ne connaissais pas. Donc voilà. Et avoir prié aussi les yeux ouverts. C'est quelque chose que je ne connais pas trop. Mais vraiment, Dieu m'a guidé pendant ce moment de prière. Et j'en ai profité pour prier pour sa paix intérieure, pour sa situation, le mettre en contact aussi avec le camion douche, qu'il puisse prendre soin de lui. Et après, Neil, il allait au Carrefour lui acheter un petit peu à manger, à boire. Et moi, j'avais trop envie de voir comment Jésus avait travaillé sur cette personne. Et je lui ai dit, bon, qu'est-ce que tu as ressenti ? Il m'a dit, j'ai ressenti de la chaleur, beaucoup de chaleur à l'endroit où vous avez vos mains. Et puis, je lui ai dit, bah, est-ce que tu pourrais un petit peu lever ton bras, bouger et puis me dire comment ça se passe ? Et puis, il me fait comme ça. Et puis, aucune grimace, rien. Et il avait du mal à dire qu'il n'avait plus de douleur, mais ça se voyait qu'il était bien et qu'il avait été totalement guéri. Et je rends gloire à Jésus pour vraiment pour cette manifestation qu'on a pu voir, parce que ça motive. Et je vous encourage tous aussi à sortir, à vous challenger, à faire preuve d'audace, avoir confiance en vous, être motivé, parce que tout ce que vous allez donner, ça vous sera rendu, mais fois 10, fois 1000. Et voilà, recevoir l'amour, c'est incroyable.
Super. Merci.
Là, vous voyez, on a trois exemples. Jésus guérit à Pointe-à-Pitre, Jésus guérit à Marseille, Jésus guérit à Montélimar, les amis. Amen. Wouh ! Moi, je kiffe ça. Franchement, quand je vois des trucs comme ça, je me dis, waouh, là, c'est vraiment la foi en action. C'est génial. En plus, des jeunes de l'église, de la ville qui se lèvent et tout. Ça, c'est vraiment, on prie pour ça. Mais là, on le voit. C'est vraiment génial. Et là, je vais vous parler d'une autre mission que j'ai vécue le mois dernier. Le mois dernier, j'ai rejoint le fameux ministère de Reinhard Bonnke, Christ pour toutes les nations. Et on est parti à Madagascar faire de l'évangélisation dans le deuxième pays le plus pauvre au monde, où j'ai vu le tiers-monde pour la première fois de ma vie. Ça a été vraiment quelque chose de voir la misère du monde. C'est vraiment, ça m'a vraiment pas laissé indifférent. Et on est allé faire ce qu'on appelle une Youth Crusade, c'est-à-dire une campagne d'évangélisation pour les jeunes. Alors, je vous explique un peu le contexte. Reinhard Bonnke, un évangéliste qui a commencé il y a peut-être 40-50 ans à l'évangéliser en Afrique, faire les grandes campagnes d'évangélisation. Et cette personne, en fait, elle s'est levée parce qu'elle a considéré que c'était l'appel de Jésus dans sa vie d'aller faire ça. Mais cette personne, elle ne marchait pas toute seule. Il y avait tout un tas de personnes qui étaient avec lui, des chauffeurs de camions, la technique, tout ça. Parce que quand on fait un événement qui rassemble, je crois qu'il a rassemblé plus d'1,5 million de personnes, je crois, dans un pays en même temps, en une fois, ça vous laisse imaginer la taille de la scène, la taille du matériel, de la sono, tout ça. Enfin, il y a des semi-remorques qui se mettent en marche 3 mois avant la campagne pour ce genre d'événement qui dure 3 jours. Et en début d'année, j'ai rencontré Yako et Karine Hugo, qui sont des... Yako, en fait, c'est des Australiens. Yako, il a conduit un camion pendant des décennies avec Reinhard Bonnke. Lui, c'était son appel. Chauffeur de camion, je me régale, les routes de l'impossible, je pars pendant 3 mois en Afrique et tout, je galère, je casse les arbres de transmission du camion, je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Bref, pour apporter le matériel à la campagne d'évangélisation. C'était son appel. Comme quoi, il n'y a pas de sous-appel, il n'y a pas que les 5 ministères. Il n'y a pas que ça. Il ne faut pas croire. Il y a plein de choses. Vous voyez, ce matin, on était sur la technique, la sono, la louange, la communication, les médias. On a besoin de tout le monde. Et ce personnage, il y a quelques années, il se dit, mais on est en train de faire tous les pays d'Afrique on va voir la population, on va voir essentiellement des adultes quelque part, mais à chaque fois, on oublie les jeunes. Et donc, du coup, il a l'inspiration de pour moi, c'est carrément conduit par le Saint-Esprit, il se dit, mais on va faire des campagnes d'évangélisation pour les jeunes. On va faire des Youth Crusades. Et du coup, il a lancé ça il y a quelques années, dédié à l'anglophonie, forcément, parce qu'après, on est confronté à la langue. Et depuis un an et demi, c'est aussi ouvert à la francophonie. Et cette œuvre, aujourd'hui, elle a pris une dimension... elle est tellement grande, cette œuvre, aujourd'hui, que toutes les semaines, il y a des campagnes d'évangélisation de ce type-là. Et le mois dernier, il y a 1,5 million de jeunes qui ont entendu l'évangile au travers de ce formalisme. Et ça fait, je crois, à peu près 5 ans qui sont en activité. Voilà. Et nous, quand on était à Madagascar, on était dans la capitale à Antananarivo, on a pu proclamer l'évangile 84 fois dans 84 écoles. Et avec l'aide des professeurs, on a compté le nombre de personnes qui ont entendu l'évangile. Donc on a 23 232 personnes qui ont entendu l'évangile. Ça, c'est quand même un truc de fou. Où il y a eu des réponses claires pour dire oui à Jésus. Je vais vous montrer tout à l'heure. Et surtout, là où on a vécu l'impossible de Dieu, c'est qu'on a vécu des guérisons de dingue. Et pour moi, en fait, cette... on va montrer des vidéos, je pense, en premier. Voilà. Donc, en fait, ça se passe comme ça. En fait, on va dans les écoles. On va voir les responsables. On se présente en tant que missionnaire chrétien. Enfin, on est transparent. Hein. On n'est pas là pour vendre du rêve ou quoi que ce soit. On a vraiment une démarche très transparente. Et bon, c'est vrai que c'est un pays qui est assez chrétien. Mais c'est surtout, il y a tellement de besoins que les professeurs et les directeurs eux-mêmes prient pour les étudiants, prient pour ce qui se passe. Et je me souviens, un matin, on est arrivé dans une école, il y avait eu un meurtre la veille dans la rue, parce qu'il y a beaucoup de misère, il y a beaucoup de vols, il y a beaucoup de tout ce qu'on veut. C'est assez dur, le monde de la rue est très très dur. Et les professeurs, ils priaient pour de l'aide extérieure. Et nous, 30 minutes après, on arrive. Et les professeurs, ils en pleuraient. Et vous pensez bien que des messages tournés sur Jésus qui sauve, ça a tout à fait sa place. Et on a la possibilité de prêcher l'évangile devant des centaines de personnes avec des réponses positives. Et voilà, ça m'a vraiment marqué. Parce qu'en fait, ce jeune qui se met à genoux, moi, ça, j'aime beaucoup sa démarche parce qu'en fait, là où il est, en fait, il dit oui à Jésus. Il ne regarde pas à tout ce qui lui manque. Bon, là, ils sont plutôt un petit peu aisés dans le sens où ils ont des chaussures, parce que la majorité n'en ont pas. Mais là où il est, il ne voit pas le négatif. Il ne voit pas ce qui lui manque, il ne voit pas l'inconfort, la misère. Peut-être qu'il ne sait pas où est-ce qu'il va manger à midi, tout ça, il ne le voit pas. Il voit vraiment le positif, il voit vraiment, avec une démarche de foi, il se dit... Mais oui, Jésus, je crois en toi, je crois que tu vas me sortir de là, je crois que tu vas pourvoir à ma vie, à mes besoins, peut-être à une guérison, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il vit à ce moment-là. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que c'est vrai que dans nos pays, on a du mal à voir, sur le moment, peut-être quelqu'un qui met le genou à terre et qui dit oui à Jésus. Alors, on l'a vu avec Neil à Paris, je me souviens qu'on l'a déjà vu, mais ça reste quand même assez rare. Alors que là, en fait, dans cette mission, on l'a régulièrement vu. Et quand la personne, en fait, elle se met vraiment à genoux comme ça, à recevoir l'évangile, ben, ça produit tout simplement... est-ce que tu peux lancer la première vidéo, si tu l'as, la vidéo qui est complètement à gauche ?
Voilà. Comment tu t'appelles ?
Mickaël.
Donc, tu avais des problèmes de vue, c'est ça ?
Oui.
Et qu'est-ce que tu as senti pendant la prière ?
Ne savais pas la table, mais pas beaucoup de trucs. Il y a eu un changement.
Il y a eu un changement. Est-ce que tu peux expliquer avec d'autres mots comment tu as vécu ce changement ?
Quelque chose, je suis sortie.
des grâces. Oui, sœur Antonia, il y avait quelque chose qui est enlevé en lui.
Quelque chose qui a été enlevé en toi. En toi ou sur tes yeux?
Sur mes yeux.
Sur tes yeux qui a été enlevé. Et est-ce que tu vois mieux maintenant? Tu vois un peu mieux. Est-ce qu'on peut encore prier pour toi maintenant?
Voilà, voilà,
remets tes lunettes.
Ouais.
Oui, Seigneur Jésus, je te remets cet enfant. J'ai vraiment à cœur que tu le guérisses complètement, Seigneur Jésus. Parce que quand tu étais là, tu as guéri des aveugles. Et je suis convaincu que tu guéris encore aujourd'hui. Que ce soit des aveugles, que ce soit des mal de dents, que ce soit des mal de ventre. Alors, Seigneur Jésus, je te demande de venir dans le corps de cet enfant maintenant. Et de venir enlever ce qui doit encore être enlevé. Cet esprit descend maintenant. Viens enlever, Seigneur Jésus. Viens remplir cet enfant, Seigneur Jésus. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Et aujourd'hui, tu guéris encore, Seigneur Jésus. Amen.
Amen.
Est-ce que tu as encore besoin de tes lunettes, tu penses?
On l'a mis à des sommets, c'est? Non?
Non?
Non. T'as plus besoin de.
T'as plus besoin de lunettes, tu penses?
Waouh!
Waouh! Et qui c'est qui t'a guéri?
C'est Dieu.
C'est Jésus qui est intervenu. C'est Jésus. Ouais. Ouais. Tu peux retourner à ta place?
Alors là, je vais vous expliquer le contexte. On était dans une école et moi, je m'occupe de la partie guérison et je fais un appel à la guérison. Et il y a ce garçon, il lève la main. Il regardait à droite comme ça et je lui dis « T'as mal où ?» Et en fait, il m'entendait, mais il ne me voyait pas. Et je demande à ses collègues, mais qu'est-ce qu'il a? Il me dit, mais il y voit pas. Et moi, dans ma tête, je me dis, Seigneur, c'est pas possible. J'ai jamais prié pour un aveugle, non. Incrédule, mais je suis honnête. Incrédule, je dis, non, Seigneur, un aveugle, c'est trop dur pour moi, je n'ai pas envie. Et je regarde tout autour de lui, évidemment. Il était là, il s'est levé, il était au taquet. Et on a prié simplement pour lui. Et voilà. Et tous ses collègues de classe, ils lui disaient « Combien j'ai de doigts? Combien j'ai de doigts ?» Et bien, il lui disait « Tiens, attends, tiens, attends. » Et il a commencé à témoigner, tout simplement, de ce que Jésus a fait pour lui dans ce temps de prière. Et moi, j'ai vraiment été chamboulé parce que je me suis dit « Mais malgré tout ce que je fais, j'arrive encore à avoir une barrière d'incrédulité dans ma vie, en fait. » Et je pense que ça, c'est un enseignement vraiment... On a beau lire la Bible, on a beau savoir que Jésus guérit les paralytiques, il guérit les aveugles, tout ça, mais le jour où Jésus, au travers de toi, et parce qu'il attend de toi que tu œuvres dans la guérison des maux, eh ben ça fait son effet, en fait. Moi, franchement, j'ai été vraiment très chamboulé. Yes, encore une vidéo témoignage.
Médine, enchantée, est-ce que tu avais mal aux yeux, c'est ça? Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire avec des yeux avant? Et pendant la prière, tu as vécu quoi? Tu peux me détailler un petit peu ce que tu as vécu pendant ce moment? D'accord, donc tu as eu l'œil gauche qui est devenu tout chaud, c'est ça? Maintenant, est-ce que tu vois mieux avec l'œil gauche?
Oui, je
vois
mieux.
Et qui c'est qui t'a guéri? C'est Jésus qui l'a guéri. Vous avez entendu son témoignage, il a l'œil qui est devenu tout chaud. Et là, maintenant, il y voit mieux. Amen. Merci pour ton témoignage. Merci. Très courageux. Amen.
Donc là, pareil, c'est un appel à la guérison. Et cet enfant, il avait mal à l'œil. Alors, je ne sais pas exactement s'il avait le nom de la maladie ou quoi que ce soit. On l'a invité à mettre tout simplement la main là où il avait mal. On a prié pour lui, comme disait Samuel, les yeux ouverts, sans imposition de main, quoi que ce soit. Et guérison instantanée. Voilà, il a eu chaud et la chaleur est partie. Voilà, gloire à Dieu. dernier témoignage.
Quand t'as dit Grace ?
Gracia.
Tu avais mal au Gracia ? Tu avais mal au ventre. Et maintenant, est-ce que tu as encore mal au ventre ?
Non.
Tu as plus mal au ventre ? Qu'est-ce que tu as senti pendant la prière ? Tu as senti quelque chose de très chaud dans le ventre, c'est ça ? Waouh ! Et qui c'est qui t'a guéri ? C'est Jésus qui a guéri.
Alors là, pour le contexte, à Madagascar, il y a des problèmes d'eau potable. Donc nous, comme on n'est pas habitués, si on boit cette eau-là, c'est une catastrophe. Eux, ils ont mal au ventre, ils ont la diarrhée, mais nous, c'est une catastrophe. Et voilà, elle a vécu la chaleur dans le ventre. Voilà, c'est son témoignage. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ces vidéos, c'est les mots des enfants, en fait, des mots simples, des mots accessibles à tous qui retranscrivent exactement ce qu'ils ont vécu. Et donc, ce que je voulais aussi dire, c'est que ce que j'ai compris, en fait, moi, de cet appel, en fait, quand on répond à l'appel de Dieu dans notre vie, c'est quelque part, il y a une folie pour Dieu, parce que peut-être que, parce que moi, tout ça, ben voilà, je prends des vacances, je prends beaucoup de temps personnel pour ces actions que vous avez pu voir. On pourrait se dire, ben voilà, il pourrait partir en vacances, il pourrait profiter de la vie et tout ça, mais quelque part, il y a une part de folie, en fait, parce qu'on fait ça pour Dieu, pour sa gloire. Il y a une part d'audace qu'on a vu hier, pour ceux qui étaient là, on a parlé de ce que c'était que l'audace. Il y a du zèle, mais il y a aussi beaucoup d'humilité, parce que c'est pas moi qui guéris, c'est moi, je suis juste là pour véhiculer un message, mais c'est le Saint-Esprit qui œuvre au travers de nous et qui va toucher les personnes. Et il y a de l'obéissance, comme disait Fabrice tout à l'heure. Moi, j'ai fait tout ça parce que je me suis senti appelé à le faire et j'ai répondu par obéissance. Et à chaque fois, j'ai beaucoup de reconnaissance parce qu'en fait, la parole, elle est vivante. Jésus est guéri encore aujourd'hui. Quel que soit le pays, quelle que soit la nation, Jésus est toujours là. Ce que j'ai compris aussi, c'est que quand Jésus t'appelle, il t'appelle individuellement. Il t'appelle toi là, maintenant, à faire ça. Toi là, à faire ça. Il t'appelle individuellement, mais pour que tu trouves ta place dans une œuvre plus grande, pour rejoindre une équipe, pour rejoindre ce qu'on appelle le corps de Christ. C'est peut-être un mot barbare, mais pour rejoindre une équipe qui est déjà en place ou qui est en train de se mettre en place, pour rejoindre une dynamique qui est déjà là. Parce qu'il t'appelle peut-être individuellement, mais pas à faire les choses seul, à les faire avec lui, mais à les faire avec les frères et sœurs, à les faire avec le corps de Christ, parce qu'on a besoin d'intercesseurs, on a besoin d'enseignants, on a besoin de la louange, on a besoin d'églises, on a besoin aussi de pasteurs, on a besoin de personnes qui vont faire le discipulat. Là, j'en ai pas parlé, mais à chaque fois, il y a une logique de discipulat derrière. Ce que j'ai compris aussi, c'est que quand on est appelé, on est destiné à refléter quelque chose de notre Créateur. Notre Créateur, c'est... voilà, il est bon, il est merveilleux, c'est le guérisseur, c'est le professeur, c'est un papa, c'est une maman, on peut mettre plein de qualificatifs, mais au travers de notre appel, on a quelque chose de particulier de lui qui va se dégager et qui va se compléter avec les frères et sœurs avec lesquels on va marcher. Et du coup, ça va donner une puissance, en fait, dans ce qu'on est en train de faire. J'ai compris aussi qu'on avait été créé pour répondre à un appel, pas pour rester sur une chaise, être inactif, ou juste dire « je suis sauvé ». Mais vraiment, moi, je crois vraiment qu'on a un appel dans notre vie chacun et qu'on est fait pour y répondre. Ce que j'ai appris, c'est que tout ce qu'on fait, on le fait pour la gloire de Dieu. On le fait pour le royaume de Dieu, on le fait pour que le royaume il avance. On ne le fait pas pour notre gloire, on ne le fait pas pour notre pomme à nous. Ce que j'ai compris aussi, c'est que cet appel, ce n'est pas une question de trajectoire personnelle ou de développement de soi, c'est la manifestation dans le temps de Dieu qui appelle pour sauver, pour transformer et pour t'envoyer. Parce que c'est ça le plan de Dieu. Il veut te sauver, il veut te transformer et il veut t'envoyer. Parce qu'il y a plein de personnes, des nations qui attendent de parler de Jésus. Surtout quand on voit l'actualité et les maux du monde, c'est d'autant plus d'actualité. Le Seigneur, il attend qu'on porte du fruit dans nos vies, dans des œuvres qui sont prévues d'avance. Donc il a préparé, comme c'est dit dans Éphésiens 2:10, en réalité c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En fait, il a préparé plein de choses dans ton agenda que tu ne vois pas aujourd'hui, mais il les a prévues et il attend que tu saisisses cet appel et que tu te mettes en marche pour y répondre. Il s'agit de discerner le chemin que Dieu a préparé pour toi. Quelles sont ces bonnes œuvres afin que tu les pratiques. Et ce que j'ai noté aussi, ce que j'ai compris aussi, c'est que Dieu il nous appelle pour que nous jouions notre rôle dans la réparation des maux du monde et dans la transmission de son message jusqu'aux extrémités de la terre. Parce qu'il y a plein de personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, qui attendent qu'on parle d'un Jésus qui sauve, d'un Jésus qui guérit, d'un Jésus qui délivre, d'un Jésus qui aime, d'un Dieu qui aime, qui ne sont pas seuls. Et voilà, j'arrive à la fin, on arrive à la fin de notre message avec Neil. Et on avait envie de faire comme un petit appel, un petit temps. Je ne sais pas, aujourd'hui, peut-être que tu as entendu parler d'un Jésus qui sauve et qui guérit, comme tu l'avais peut-être jamais entendu ou que tu l'avais peut-être jamais vu parce que tu savais, mais voilà. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, mais moi, j'ai envie de dire oui à ce Jésus. Oui à Jésus parce que je ne savais pas, peut-être qu'il était le même ici et ailleurs, qu'il est même hier, aujourd'hui et demain. Et aujourd'hui, ben, je t'invite, là où tu es, comme cet enfant-là, vous savez, qui a mis le genou à terre, ben, là où tu es, ben, je t'invite vraiment à lever la main et à dire oui à Jésus. Parce que ce Jésus, il est là pour toi aujourd'hui. Il est là pour te donner la vie. Il est là pour te libérer. Il est là pour te guérir. Guérir de tes maux. Il est là pour que tu aies la pleine vie en toi. Et vraiment, c'est ce qu'il veut faire, Jésus. Il est là vraiment pour toi. Comme ces enfants, comme l'aveugle qui a été guéri, comme le boiteux qui a été guéri, comme le malentendant qui s'est remis à entendre. Jésus, il veut ça pour toi. Parce que sa compassion, elle est telle mais qu'il veut la déverser pour toi aujourd'hui. Et si aujourd'hui, tu as entendu un appel plus spécifique pour toi dans ta vie, à te dire mais moi j'ai envie de marcher pour le royaume de Dieu, j'ai envie de le voir bouger dans ma ville, que tu sois de Montélimar ou que tu sois d'ailleurs, j'ai envie de voir des gens être guéris, ben si cet appel il te parle, ben dis-lui oui à cet appel parce que ça vient de Dieu. Dieu il attend que ça, que tu te mettes en marche comme Matthieu, que tu sortes de ta guérite et que tu marches pour le royaume de Dieu. Alors on va prendre un petit temps individuel de 2-3 minutes pour réfléchir à ce qui a été dit, ce que vous avez reçu, surtout individuellement. Et merci pour votre écoute. Amen.